Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote ! Le 7-9-30 sur France Inter.
Il est 9h09, Sonia De Villers, vos invités font partie des queens en compétition dans Drag Race.
C'est ça, 11 et une seule sera la reine. Bonjour Kayona.
Bonjour Sonia.
Bonjour Cookie.
Bonjour.
Cookie Cunty de son vrai nom, évidemment. Évidemment, le Drag Race France, la saison 2 démarre sur France 2 vendredi. La France a changé en un an, les amis. La France a changé parce que vous, vous avez grandi en regardant cette compétition de drag queen née de la télévision américaine. Mais vous ne l'imaginiez pas en France, Cookie.
Complètement. C'est vrai que je pense qu'en un an, ce qui a été fait avec la première saison, c'est incroyable. On a commencé un long processus parce que ça a changé, ça a commencé, mais c'est pas tout à fait fini.
Non.
On a commencé un long processus de déconstruction, des mentalités aussi, de faire découvrir nos réalités à nous. Et nos existences avec le drag, c'est fantastique, ouais.
Voilà, alors on va faire connaissance avec l'une et avec l'autre. Kayona. Alors on va commencer par Kayona. Kayona, on va peut-être écouter le numéro d'ouverture d'un concours mythique, ça s'appelle Legendary. HBO, c'est une chaîne américaine. Vous y êtes en bande et vous allez nous expliquer comment et pourquoi, parce que c'est une compétition à la fois magnifique et féroce.
All the way from Paris, France, the iconic house of Revlon has now landed.
Kayona, reine du voguing. Qu'est-ce que le voguing ?
Le voguing, c'est une danse, mais c'est surtout d'abord une culture née dans les années 80. À New York, donc ça nous vient des femmes trans, noires et latinas qui ont dansé ce qu'on appelait le voguing old way, très linéaire, et c'est devenu le vogue femme, donc qui est plus communément appelé aujourd'hui voguing, donc qui a initié la compétition Legendary sur HBO Max, qui fait compétir différentes houses dans différentes catégories, parce qu'en fait dans le voguing il y a plusieurs catégories.
Les houses, ce sont des maisons, ce sont des équipes.
Ça, ce sont des équipes, ce sont surtout des familles de substitutions. Donc la scène est vraiment constituée de familles, voilà, qui s'affrontent dans des épreuves. Donc on a ce truc de, en même temps, le ballroom safe space, sans jugement, mais il y a une compétition à l'intérieur.
Une compétition acharnée.
Et Legendary était vraiment, pour l'instant, une des plus grandes plateformes de compétition voguing au monde.
Voilà.
À laquelle j'ai la
chance. Et c'est devenu une culture européenne.
Et oui, le voguing s'est très 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 bien exporté. Pourquoi ? Parce que les communautés queer, noires et racisées sont en fait partout. Depuis maintenant 10 ans, les femmes, je parle surtout en même temps des femmes cis, ont pris aussi leur place dans la communauté. Elles ont été un énorme support pour nous. Pour les personnes queer, pour les personnes trans. En Europe, c'est quelque chose qui s'est très très bien exporté. Paris est aujourd'hui la capitale européenne du voguing, de la culture ballroom.
La première grande reine de Drag Race France est... Paloma.
C'est la première fois qu'en France, des gens queer sont des superstars. Ça m'a apporté aussi la confiance que j'avais pas. Le garçon PD, et je tiens à ce mot, qui en moi avait pas confiance. Et même quand je réussissais à d'autres endroits et que j'avais confiance en moi professionnellement, amicalement, amoureusement, il y avait toujours cet enfant PD qui était le rejeté. Et là aujourd'hui, ça change. Et ça, c'est incroyable.
Il faut peut-être raconter pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, Cookie, que ça s'est terminé dans une fête incroyable au Café Beaubourg, en plein cœur de Paris, dans une fête absolument incroyable qui a quasiment débordé les organisateurs, c'est-à-dire que ça affluait de partout dans une émotion incroyable.
Ah, complètement, c'est devenu un événement, c'est un peu notre Coupe du Monde à nous. notre communauté se retrouver et surtout de voir l'intérêt que ça a eu. C'était de la folie de voir tout ce monde dans un petit bar terrasse quoi. Non, c'est incroyable mais ça m'étonne pas. On a besoin de ça, je pense. On a besoin de cette énergie là.
Mais Keyona racontait les affrontements dans les ballrooms, dans les salles de bal de Voking. Il y a quelque chose comme ça qui est très ambigu, je trouve, dans la culture drag. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté très bitchy, comme vous dites, c'est-à-dire c'est très punaise, c'est très garce. Et en même temps, il y a quelque chose de profondément solidaire. Et c'est ce qu'on a découvert aussi dans la saison 1. De profondément... Il y a une forme de sororité et de fraternité.
Dans le drag, il y a justement ce sentiment de famille et d'appartenir à un groupe qui est très important. Et je pense que c'est notre premier bastion, c'est cette famille-là. Après, pour grandir, on a besoin aussi de s'affronter et de recréer des schémas aussi, des fois, de difficultés au sein même de cette famille-là pour pouvoir lutter après contre le reste du monde, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette force, mais il y a aussi ce besoin de tester nos limites, de se taquiner, de s'embêter. C'est aussi...
De lutter contre le reste du monde, c'est-à-dire que là, vous êtes primé, reconnu, plébiscité, ovationné pour précisément ce pourquoi plusieurs d'entre vous ont été
critiqués, oui, bien sûr.
Critiqués, rejetés, discriminés.
Tués aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement. Ça. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on raconte, là, on fait de la radio, donc on n'a pas l'image, et même si on a l'image, c'est pas deux dragues qu'il y a en face de moi. C'est aussi Kevin et Romain que j'ai en face de moi. Voilà. Il aurait fallu mettre le réveil à 3h, 4h du matin pour arriver en tenue, et je ne vous ai pas infligé ça. Mais j'aimerais d'abord, Keyona, que vous décriviez votre personnage visuellement.
Okay.
Et qu'est-ce que vous avez été chercher comme élément visuel pour, qu'est-ce que vous avez été chercher pour faire de Kevin Keyona?
Keyona, je pense que c'est d'abord une demoiselle qui veut séduire. Elle obtient généralement ce qu'elle veut. je vais pas chercher très loin, hein. Les top modèles des années 90, Katusha, Iman, Naomi Campbell, elles sont grandes.
Alors, Keyona est noire, parce que comme on fait
exactement,
de la radio, on ne sait pas qui parle.
Keyona
a grandi entre la France et la Côte d'Ivoire.
Keyona est noire, Keyona vient de Côte d'Ivoire. Donc, je suis née à Paris, mais j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire. Longtemps, je suis allée à l'école. Donc, moi, mes premiers modèles, les soeurs des premières personnes que j'ai vues dans les médias, à la télé, qui ressemblait à l'idéal féminin que j'avais dans mon imaginaire. Voilà, c'était les top modèles noirs des années 90 et 2000.
Ce qui est intéressant, parce que justement, la culture du voguing, cette danse dont on parlait tout à l'heure, c'est l'idée aussi que cette communauté afro-américaine va s'approprier les codes de la haute couture, du luxe, des magazines de mode qui, pendant très, très, très longtemps, étaient plus blancs que blancs.
Vraiment, vraiment. Ouais. Et c'est même pour ça, d'ailleurs, que les maisons s'appellent des houses. Ça vient parce que c'est des maisons de couture.
Ah,
on porte littéralement les noms de marques de haute couture, de haute joaillerie, de haute de marques de cosmétiques. Donc, Keyona, c'est très mode, c'est sexy, c'est très féminin.
Et par ailleurs, Keyona a aussi ce corps incroyable, ce corps d'athlète, parce qu'on peut pas être un danseur de ce niveau-là si on n'a pas un corps d'athlète, si on n'est pas extrêmement musclé.
Je pense que la danse, du coup, m'a aidé à atteindre cet objectif, entre autres. Je ne suis pas née comme ça, ou peut-être, je ne sais pas. Mais le corps que j'ai, le voguing, l'a forgé.
Moi, je vous ai vu danser, Keyona.
En bikini, oui.
C'est-à-dire, je vous ai vu danser en bikini à paillettes avec un corps qui était une montagne de muscles. Et c'est le contraste entre les deux visuellement est magnifique et hyper impressionnant.
C'est ça, c'est très sportif en effet, les talons et tout ça. Donc je remercie la danse et le voguing pour cette silhouette incroyable.
Cookie s'est forgé une spécialité dans le make-up. Vous êtes une make-up artiste, on vous a vu aussi dans d'autres compétitions sur M6, sur les reines du make-up.
Avec
Keyona, absolument, parce qu'il y en avait une dans le jury et l'autre en compétition. Alors j'aimerais que vous décriviez Cookie.
Alors Cookie, ce n'est pas une montagne de muscles.
Cookie est très maternelle.
C'est un petit gabarit, mais c'est une femme tout en volupté. Et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le côté maternel aussi. Même si je suis un peu la tata cool qui vient au dîner de famille avec sa fiole de vodka. Je pense que c'est comme ça que je la décrirais. J'ai beaucoup de références rétro, glamour, hollywoodien. C'est ce qui me plaît. Les femmes de ma vie, les femmes qui m'ont forgé aussi. Et c'est toute cette féminité que j'exacerbe avec mon drag, quoi.
C'est ça. Mm-hmm. Et quel rapport entretiennent vos identités masculines et féminines? Elles s'entendent bien?
Je pense qu'elles cohabitent complètement, oui, bien sûr. Et je pense que c'est
Romain
essentiel.
Et Cookie cohabitent.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Je pense que c'est essentiel aussi que notre féminité, notre masculinité cohabitent. C'est ce qui fait de nous un être complet, je pense.
Ça veut dire que Cookie est un prolongement de...
Complètement. C'est, je pense même que c'est le meilleur de moi aussi, des fois. C'est ma féminité, je pense que c'est le meilleur d'entre nous. Enfin, ouais. C'est ce qu'il y a de mieux en nous.
Et entre Keyona et Kevin, c'est conflictuel parfois?
Moi, je suis manager. Elle, c'est la star. littéralement, voilà. Keyona, c'est une star. J'essaie de la maîtriser, mais je suis vraiment... Ce que je peux dire de Keyona, c'est que je suis extrêmement reconnaissant. Je ne serais pas là sans elle, littéralement. Ouais. Elle m'a ouvert des portes très très grandes. J'ai fait énormément de choses en drague grâce à Keyona, des choses que j'aurais jamais faites, je pense, moi-même.
Que Kevin n'aurait jamais fait.
Kevin n'aurait pas pu faire forcément aussi facilement, aussi rapidement lui-même. Keyona, elle arrive, elle casse, elle met le pied dans la porte et elle vient et elle dit moi je veux ça, ça c'est comme ça et je veux ça et ce serait payé tant et c'est comme ça et c'est tout de suite et c'est maintenant.
Mais ça veut dire qu'en drague on peut tout se permettre, Cookie?
Je pense qu'on s'autorise déjà à exister aussi fortement en drague et aussi à être dans le moment présent parce qu'il y a quelque chose dans le drague qui nous rappelle au présent déjà du fait qu'on soit en souffrance. Il y a quelque chose de physique dans le drague, ça nous rappelle à notre réalité, à notre humanité et je pense que il faut pas faire plus que ce qu'on ferait pas. Enfin, c'est dit comme ça, c'est étrange en effet.
Non, mais on va y arriver.
Je pense pas que je me permettrais de faire des choses que je ne ferais pas en civil, mais je pense que je peux dépasser les limites que je me fixe moi-même. Tu sais, oui, j'ai pas vraiment d'explication à ça.
J'aime bien l'idée du civil.
C'est ouais, y a, oui. Y a ah civil. Oui, vraiment.
On est en civil ou on est en uniforme. Bon, les filles, j'ai choisi pour vous Zao de Sagazan, qu'on aime énormément sur France Inter. Keyona et Cookie Kunti sont mes invités, toutes les deux, dans une compétition faite Rose qui commence vendredi sur France 2. Drag Race. Yes.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs, Zao de Sagazon.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Hello, hello, hello. Are you ready to meet your opponent? It's time to present this week's Lip Sync Assassin. The time has come. Feature lip sync for your life. Good luck and don't f*** it up.
Mes invités s'appellent Keyona et Cookie Conti. Évidemment, vous avez biberonné à RuPaul. Il faut que vous nous racontiez qui est RuPaul et ce que RuPaul vous a appris dans la vie. Cookie.
RuPaul, c'est une superstar. C'est la mother, c'est la mère du drag comme on le connaît maintenant. C'est elle qui a mis le pied à l'étrier, le pied dans la porte et qui l'a ouvert pour nous toutes et tous. C'est une icône, c'est une supermodèle.
C'est vraiment une compétition entre drag filmée aux États-Unis, arrivée sur Netflix il y a déjà plus de 10 ans, à partir de 2009. Il en a fallu du temps pour que la télévision française suive. Alors, qu'est-ce que vous a appris RuPaul? Quels sont les grands numéros, les grandes épreuves qui vous ont marqué et que vous retrouvez aujourd'hui dans la compétition française? Keyona.
Alors, RuPaul, depuis le début de la compétition, a créé plein de challenges en fait, qui reviennent chaque saison. Donc, on parle du Snatch Game.
Qu'est-ce que c'est?
Le Snatch Game, c'est un jeu d'imitation.
Ouais.
Donc, dont le but ne va pas forcément être d'avoir les bonnes réponses. Donc, on doit snatch en fait, les réponses de l'invité. Mais c'est surtout en essayant de répondre, d'imiter au mieux un personnage. Donc, quelqu'un va choisir d'imiter Nicki Minaj, quelqu'un va choisir d'imiter, Gérard Depardieu, n'importe qui. Et le jeu va avec les questions et les réponses doivent correspondre.
De toute façon, dans le drag, il y a une grande tradition de l'imitation. Il y a une grande tradition de la mimique, Cookie.
Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu dans le milieu du transformisme qui se spécialise vraiment dans les transformations de célébrités. C'est un peu le challenge incontournable dans Drag Race. C'est le Snatch Game qui est en effet d'incarner un personnage et de le tenir jusqu'au bout tout en étant drôle, réagir, enfin savoir réagir.
Il y a un autre challenge, qui vous tient à cœur?
Il y a des challenges comme le Sewing Challenge, c'est le ball en général, défis de couture où on doit vraiment, là pour le coup, réunir toutes ces capacités de créatif et de pouvoir
parce que c'est construire. Absolument donc c'est un défilé de robes permanent Drag Race, c'est une kyrielle, c'est une pluie, c'est un torrent de vêtements. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un mélange, enfin c'est extrêmement créatif et c'est un mélange entre des codes de l'hyperluxe et en même temps de la débrouille. C'est un mélange entre les deux.
Le drag vient beaucoup de la débrouille essentiellement c'est important que ça le soit aussi encore. C'est pluridisciplinaire. J'aime bien voir le drag comme un artisanat aussi où il faut être complet, salade tomate-oignon, comme je dis souvent, pour pouvoir exercer ce métier qui est fabuleux. C'est pluridisciplinaire et je pense que c'est vraiment les Jeux Olympiques du drag.
Et ce que je voudrais comprendre, c'est au fond, vous n'avez rien le droit de dire sur la saison 2 qui a déjà été tournée, sinon vous allez en enfer. Mais je dis ça à Cookie
ferai la porte, moi. C'est moi qui m'occupe du carré VIP.
En enfer, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc je peux évidemment pas vous interroger sur ce qui s'est passé, mais quel est le critère fondamental? Parce que c'est ça qui est difficile est-ce que vous qui êtes une make-up artiste, est-ce que c'est une affaire d'apparence, de perfection d'apparence? Non,
je pense que le drag, ça devrait pas être défini en tout cas par juste l'apparence. Évidemment qu'il y a tout un costume, il y a des envies aussi qui sont propres à tout un chacun. Mais c'est vraiment se créer un personnage de toute pièce. Il peut avoir un look toute sa vie et où il peut en avoir 500, 600, 700. C'est vraiment, ça dépend de chaque envie et de chaque personne. Il y a du maquillage, il y a du costume, il y a de la scéno, il y a savoir tout faire. Il faut savoir tout faire.
On va citer vos concurrentes. On va citer, voilà. Parce que là, il y a Ginger Beach, il y a Kitty Space, il y a Lily Moon, il y a Mami Wata, il y a Peach.
Pas Lily Moon, pardon. C'est Moon.
Moon.
Oui.
Ah.
Mais elle existe, Lily Moon, en effet. Mais c'est pas elle.
Mais c'est pas la même. C'est ça. Il y a Peach, il y a Bunami, il y a Rose, il y a Sarah Forever et il y a Vespi. J'aimerais que vous nous racontiez l'immense diversité, en réalité, qui traverse l'industrie du drag, Keyona.
Waouh.
Déjà dans la saison 1, on a vu Big Bertha avec son ventre et avec sa barbe.
Ouais. Donc effectivement, oui, le drag aujourd'hui est valide pour tous et toutes. Tout le monde peut faire du drag. Tu peux faire du drag toi aussi si tu veux.
Merci. Bah oui. J'ai mis ma chemise lamée.
Exactement. Est-ce que c'est pour tout le monde? Peut-être donc, pas, mais tout le monde pourrait en
tout faire. Éventuellement. Oui, il y a cette vague de diversité, de représentation qui est super importante. Important. Autant pour les personnes plus âgées qui commencent le drag, comme Ginger Beach qui a commencé le drag à 41 ans, et qui se trouve dans la Grèce maintenant, qui nous racontait, voilà, quand elle a commencé, personne n'y croyait, et plus ça allait, et mieux c'était, et plus elle ne fait que ça maintenant. Maintenant, pareil pour d'autres, des personnes trans aussi qui font du drag, comme Moon, qui est une meuf trans et qui est une artiste incroyable avec une sensibilité et une. Franchement, moi, je l'aime trop, elle est carrément sur la lune. Voilà, jeunes drags, plus jeunes comme Mami Wata, qui est une des Benjamines avec Vespi dans notre saison. Donc voilà, c'est vraiment tout
et
âge.
Et c'est fou ce qu'elles sont de plus en plus raffinées et de plus en plus sophistiquées par rapport au drag de Priscilla Foldi du désert d'il y a 30 ans.
Qui était
plus clownesque, qui était très drôle,
était nécessaire aussi. Je pense que c'est vrai qu'une émission comme Drag Race a aussi créé des standards aussi, ou en tout cas a élevé, a rendu le drag plus visible. Et donc, il y a eu aussi un besoin ou une envie de le raffiner. Après, encore une fois, on est en France et on a un goût pour le raffinement.
Cher Queen, à vendredi, dès 18h sur France.tv, 22h55 sur France 2. Bonne chance.
Queen Sonia, merci.